Jules Verne, l'île à hélice, première partie, chapitre 13. Relâche à Tahiti. L'archipel de la Société, ou de Tahiti, est compris entre le 15e, 15 degrés 52 minutes, et le 17e, 17 degrés 49 minutes, degré de latitude méridionale, et entre le 150e, 150 degrés 8 minutes, et le 156e, 156 degrés 30 minutes, de longitude à l'ouest du méridien de Paris. Il couvre 200 200 km superficiels. Deux groupes le constituent. Premièrement, les îles du Vent, Tahiti ou Tahititaa, Tapamanoa, Eimo ou Morea, Tetiaroa, Metia, qui sont sous le protectorat de la France. Deuxièmement, les îles sous le vent, Tubuai, Manu, Huaine, Raiateatao, Bora Bora, Mofi-Iti, Mopiti, Mapetia, Bellingshausen, Scilly, gouvernées par les souverains indigènes. Les Anglais les nomment îles géorgiennes, bien que Cook, leur découvreur, les ait baptisées du nom d'archipel de la Société en l'honneur de la Société royale de Londres. Situé à 250 lieues marines des Marquises, ce groupe, d'après les divers recensements faits dans ces derniers temps, ne compte que 40 000 habitants, étrangers ou indigènes. En venant du nord-est, Tahiti est la première des îles du vent qui apparaissent au regard des navigateurs. Et c'est elle que les vigies de l'observatoire signalent d'une grande distance, grâce au mont Maaio, ou Diadème, qui pointe à 1239 mètres au-dessus du niveau de la mer. La traversée s'est accomplie sans incident. Aidée par les vents alizés, Standard Island a parcouru ces eaux admirables au-dessus desquels le soleil se déplace en descendant vers le tropique du Capricorne. Encore 2 mois et quelques jours, l'astre radieux l'aura atteint. Il remontera vers la ligne équatoriale. L'île à hélice l'aura à son zénith pendant plusieurs semaines d'ardente chaleur. Puis elle le suivra, comme un chien suit son maître, en s'en tenant à la distance réglementaire. C'est la première fois que les milliardaires vont relâcher à Tahiti. L'année précédente, leur campagne avait commencé trop tard. Ils n'étaient pas allés plus loin dans l'ouest, et après avoir quitté les Pomotou, avaient remonté vers l'équateur. Or, cet archipel de la Société, c'est le plus beau du Pacifique. En le parcourant, nos Parisiens ne pourraient qu'apprécier davantage tout ce qu'il avait d'enchanteur, dans ce déplacement d'un appareil libre de choisir ses relâches et son climat. Oui, mais nous verrons que ce sera la fin de cette absurde aventure, conclut invariablement Sébastien Zorn. Eh, que cela ne finisse jamais! « C'est tout ce que je demande !» s'écrie Iverness. Standard Island arrive en vue de Tahiti, dès l'aube du 17 octobre. L'île se présente par son littoral nord. Pendant la nuit, on a relevé le phare de la pointe Vénus. La journée eût suffi à rallier la capitale Papeete, située au nord-ouest, au-delà de la pointe. Mais le conseil des 30 notables s'est réuni sous la présidence du gouverneur. Comme tout conseil bien équilibré, il s'est scindé en 2 camps. Les uns, avec Jem Tankerdon, se sont prononcés pour l'ouest. Les autres, avec Nat Coverley, se sont prononcés pour l'est. Sirius Bickerstaff, ayant voix prépondérante en cas de partage, a décidé que l'on gagnera Papeete en contournant l'île par le sud. Cette décision ne peut que satisfaire le quatuor, car elle lui permettra d'admirer dans toute sa beauté cette perle du Pacifique, la nouvelle Cythère de Bougainville. Tahiti présente une superficie de 104 215 hectares, 9 fois environ la surface de Paris. Sa population, qui en 1875 comprenait 7 600 indigènes, 300 français, 1 100 étrangers, n'est plus que de 7 000 habitants. En plan géométral, elle offre très exactement la forme d'une gourde renversée, le corps de la gourde étant l'île principale, réunie au goulot que dessine la presqu'île de Tatarapu par l'étranglement de l'isthme de Taravao. C'est Frascolin qui a fait cette comparaison en étudiant la carte à grands points de l'archipel. Et ses camarades la trouvent si juste qu'ils baptisent Tahiti de ce nouveau nom, la gourde des tropiques. Administrativement, Tahiti se partage en 6 sections, morcelées en 21 districts, depuis l'établissement du protectorat du 9 septembre 1842. On n'a point oublié les difficultés qui survinrent entre l'amiral du Petit Thouars, la reine Pomaré et l'Angleterre, à l'instigation de cet abominable trafiquant de bibles et de cotonnades qui s'appelait Pritchard, si spirituellement caricaturé dans les guêpes d'Alphonse Karr. Mais ceci est de l'histoire ancienne. non moins tombée dans l'oubli que les faits et gestes du fameux apothicaire anglo-saxon. Standard Island peut se risquer sans danger à un mille des contours de la gourde des tropiques. Cette gourde repose en effet sur une base coralligène dont les assises descendent à pic dans les profondeurs de l'océan. Mais avant de l'approcher d'aussi près, la population milliardaise a pu contempler sa masse importante, ses montagnes plus généreusement favorisées de la nature que celles des sandwichs, ses cimes verdoyantes, ses gorges boisées, ses pics qui se dressent comme les pinacles aigus d'une cathédrale gigantesque, la ceinture de ses cocotiers arrosée par l'écume blanche du ressac sur la sœur des brisants. Durant cette journée, en prolongeant la côte occidentale, les curieux, placés aux environs de Tribord Arbor, la lorgnette aux yeux, et les Parisiens ont chacun la leur, peuvent s'intéresser aux mille détails du littoral. Le district de Papeno, dont on aperçoit la rivière à travers sa large vallée, depuis la base des montagnes, et qui se jette dans l'océan, à l'endroit où le récif manque sur un espace de plusieurs milles. Itia, un port très sûr, et d'où l'on exporte pour San Francisco des millions et des millions d'oranges. Mahéna, où la conquête de l'île ne se termina, en 1845, qu'au prix d'un terrible combat contre les indigènes. Dans l'après-midi, on est arrivé par le travers de l'étroit isthme de Taravao. En contournant la presqu'île, le commodore Simcoe s'en approche assez pour que les fertiles campagnes du district de Totira, les nombreux cours d'eau qui en font l'un des plus riches de l'archipel, se laissent admirer dans toute leur splendeur. Tatarapu, reposant sur son assiette de corail, dresse majestueusement les âpres talus de ses cratères éteints. Puis, le soleil déclinant sur l'horizon, les sommets s'empourprent une dernière fois. Les tons s'adoucissent, les couleurs se fondent en une brume chaude et transparente. Ce n'est bientôt plus qu'une masse confuse, dont les effluves, chargées de la senteur des orangers et des citronniers, se propagent avec la brise du soir. Après un très court crépuscule, la nuit est profonde. Standard Island double alors l'extrême pointe du sud-est de la presqu'île. Et le lendemain, elle évolue devant la côte occidentale de l'isthme, à l'heure où se lève le jour. Le district de Taravao, très cultivé, très peuplé, montre ses belles routes, entre les bois d'orangers, qui le rattachent au district de Papeari. Au point culminant se dresse un fort, commandant les deux côtés de l'isthme, défendu par quelques canons, dont la volée se penche, hors des embrasures, comme des gargouilles de bronze. Au fond se cache le port Phaéton. Pourquoi le nom de ce présomptueux cocher de chars solaires rayonne-t-il sur cet isthme ? Se demande Ivernès. La journée, sous lente allure, s'emploie à suivre les contours, plus accentués, de la substruction coralligène qui marque l'ouest de Tahiti. De nouveaux districts développent leurs sites variés. Papeiri, aux plaines marécageuses par endroits, Mateaya, excellent port de Papeiri, puis une large vallée parcourue par la rivière Vaeria. Et au fond, cette montagne de 500 mètres, sorte de pied de lavabo, supportant une cuvette d'un demi-kilomètre de circonférence. Cet ancien cratère, sans doute plein d'eau douce, ne paraît avoir aucune communication avec la mer. Après le district d'Aoraono, a donné aux vastes cultures du coton sur une grande échelle, après le district de Papara, qui est surtout livré aux exploitations agricoles, Standard Island, au-delà de la pointe Mara, prolonge la grande vallée de Parovia, détachée du diadème et arrosée par le Punaroon. Plus loin que Taapuna, la pointe Tatao et l'embouchure de la Fa, le commodore Simcoe incline légèrement vers le nord-est, évite adroitement l'îlot de Motu Uta, et à 6 heures du soir vient s'arrêter devant la coupure qui donne accès dans la baie de Papeete. À l'entrée se dessine, en sinuosité capricieuse, à travers le récif de corail, le chenal que balise, jusqu'à la pointe de Farante, des canoas hors d'usage. Il va de soi que Ethel Simcoe, grâce à ses cartes, n'a pas besoin de recourir aux pilotes dont les baleinières croisent à l'ouvert du chenal. Une embarcation sort cependant, ayant un pavillon jaune à sa poupe. C'est la Santé, qui vient prendre langue au pied de Tribord Arbor. On est sévère à Tahiti, et personne ne peut débarquer avant que le médecin sanitaire, accompagné de l'officier de port, n'ait donné libre pratique. Aussitôt rendu à Tribord Arbor, ce médecin se met en rapport avec les autorités. Il n'y a là qu'une simple formalité. De malades, on n'en compte guère à Milliard City, ni aux environs. Dans tous les cas, les maladies épidémiques, choléra, influenza, fièvre jaune y sont absolument inconnues. La patente nette est donc délivrée selon l'usage. Mais comme la nuit, précédée de quelques ébauches crépusculaires, tombe rapidement, le débarquement est remis au lendemain, et Standard Island s'endort en attendant le lever du jour. Dès l'aube, des détonations retentissent. C'est la batterie de l'éperon qui salue de 21 coups de canon le groupe des îles sous le vent, et Tahiti, la capitale du protectorat français. En même temps, sur la tour de l'observatoire, le pavillon rouge à soleil d'or monte et descend 3 fois. Une salve identique est rendue coup pour coup par la batterie de l'embuscade à la pointe de la grande passe de Tahiti. Tribord Harbor est encombré dans les premières heures. Les trams y amènent une influence considérable de touristes pour la capitale de l'archipel. Ne doutez pas que Sébastien Zorn et ses amis soient des plus impatients. Comme les embarcations ne pourraient suffire à transporter ce monde de curieux, les indigènes s'empressent d'offrir leurs services pour franchir la distance de 6 encablures qui sépare Tribord Harbor du port. Toutefois, il est convenable de laisser le gouverneur débarquer le premier. Il s'agit de l'entrevue d'usage avec les autorités civiles et militaires de Tahiti et de la visite, non moins officielle, qu'il doit rendre à la reine. Donc, vers 9h, Cyrus Bickerstaff, ses adjoints Barthélémy Rugg et Hubert Harcourt, tous trois en grande tenue, les principaux notables des 2 sections, entre autres Nat Coverley et James Tankardon, le commodore Simcoe et ses officiers en uniforme brillant, le colonel Stewart et son escorte, prennent place dans les chaloupes de gala et se dirigent vers le port de Papeete. Sébastien Zorn, Frascolin, Iverness, Pinchina, Athanas Doremus, Callistus Munbar occupent une autre embarcation avec un certain nombre de fonctionnaires. Des canots, des pirogues indigènes font cortège au monde officiel de Miliar City, dignement représenté par son gouverneur, ses autorités, ses notables, dont les 2 principaux seraient assez riches pour acheter Tahiti tout entière, et même l'archipel de la société, y compris sa souveraine. C'est un port excellent, ce port de Papeete, et d'une telle profondeur que les bâtiments de fort tonnage peuvent y prendre leur mouillage. 3 passes le desservent, la grande passe au nord, large de 70 mètres, longue de 80, que rétrécit un banc balisé, la passe de Tanoa, à l'est, la passe de Tapuna, à l'ouest. Les chaloupes électriques longent majestueusement la plage, toutes meublées de villas et de maisons de plaisance. Les quais près desquels sont amarrés les navires. Le débarquement s'opère au pied d'une fontaine élégante qui sert d'aiguade et qu'approvisionne les divers rios d'eau vive des montagnes voisines, dont l'une porte l'appareil sémaphorique. Cyrus Bickerstaff et sa suite descendent au milieu d'un grand concours de populations françaises, indigènes, étrangères, acclamant ce joyau du Pacifique comme la plus extraordinaire des merveilles créées par le génie de l'homme. Après les premiers enthousiasmes du débarquement, le cortège se dirige vers le palais du gouverneur de Tahiti. Callistus Munbar, superbe sous le costume d'apparat qu'il ne revêt qu'au jour de cérémonie, invite le quatuor à le suivre, et le quatuor s'empresse d'obtempérer à l'invitation du surintendant. Le protectorat français embrasse non seulement l'île de Tahiti et l'île Mooreea, mais aussi les groupes environnants. Le chef est un commandant-commissaire, ayant sous ses ordres un ordonnateur, qui dirige les diverses parties du service des troupes, de la marine, des finances coloniales et locales, de l'administration judiciaire. Le secrétaire général du commissaire a dans ses attributions les affaires civiles du pays. Divers résidents sont établis dans les îles, à Moora, à Fakarava des Pomotou, à Tayo Aye de Nukaiva, et un juge de paix qui appartient au ressort des marquises. Depuis 1861 fonctionne un comité consultatif pour l'agriculture et le commerce, lequel siège 1 fois par an à Papeete. Là aussi réside la direction de l'artillerie et la chefferie du génie. Quant à la garnison, elle comprend des détachements de gendarmerie coloniale, d'artillerie et d'infanterie de marine. 1 curé et 1 vicaire, appointés du gouvernement, et 9 missionnaires, répartis sur les quelques groupes, assurent l'exercice du culte catholique. En vérité, des Parisiens peuvent se croire en France, dans un port français, et cela n'est pas pour leur déplaire. Quant aux villages des diverses îles, ils sont administrés par une sorte de conseil municipal indigène, présidé par un tavana, assisté d'un juge, d'un chef mutoï et de 2 conseillers élus par les habitants. Sous l'ombrage de beaux arbres, le cortège marche vers le palais du gouvernement. Partout, des cocotiers d'une venue superbe, des myros au feuillage rosé, des bancouliers, des massifs d'orangers, d'igoyaviers, de caoutchouc, etc. Le palais s'élève au milieu de cette verdure que dépasse à peine son large toit, égayé de charmantes lucarnes en mansarde. Il offre un aspect assez élégant, avec sa façade, que se partagent un rez-de-chaussée et un premier étage. Les principaux fonctionnaires français y sont réunis, et la gendarmerie coloniale fait les honneurs. Le commandant-commissaire reçoit Cyrus Bickerstaff avec une infinie bonne grâce, que celui-ci n'eût certes pas rencontré dans les archipels anglais de ses parages. Il le remercie d'avoir amené Standard Island dans les eaux de l'archipel. Il espère que cette visite se renouvellera chaque année, tout en regrettant que Tahiti ne puisse pas la lui rendre. L'entrevue dura une demi-heure, et il est convenu que Cyrus Bickerstaff attendra les autorités le lendemain à l'hôtel de ville. « Comptez-vous rester quelque temps à la relâche de Papeete ?» demande le commandant-commissaire. « Une quinzaine de jours, » répond le gouverneur. « Alors vous aurez le plaisir de voir la division navale française, qui doit arriver vers la fin de la semaine. »« Nous serons heureux, monsieur le commissaire, de lui faire les honneurs de notre île. » Cyrus Bickerstaff présente les personnes de sa suite, ses adjoints, le commodore Ethel Simcoe, le commandant de la milice, les divers fonctionnaires, le surintendant des beaux-arts, et les artistes du quatuor concertant, qui fussent accueillis comme ils devaient l'être par un compatriote. Puis, il y eut un léger embarras à propos des délégués des sections de Milliard City. Comment ménager l'amour-propre de Jem Tankerton et de Nat Coverley, ces deux irritants personnages qui avaient le droit de marcher l'un et l'autre à la fois, fait observer Pinchina en parodiant le fameux vers de Scribe. La difficulté est tranchée par le commandant-commissaire lui-même. Connaissant la rivalité des deux célèbres milliardaires, il est si parfait de tact, si pétri de corrections officielles, il agit avec tant d'adresse diplomatique que les choses se passent comme si elles eussent été réglées par le décret de Messidor. Nul doute qu'en pareille occasion, le chef d'un protectorat anglais n'eût mis le feu aux poudres dans le but de servir la politique du Royaume-Uni. Il n'arrive rien de semblable au palais du commandant-commissaire et Cyrus Bickerstaff, enchanté de l'accueil fait à lui-même, se retire, suivi de son cortège. Inutile de dire que Sébastien Zorn, Iverness, Pinchina et Frascolin avaient l'intention de laisser Athanase de Rémus, époumoné déjà, regagner sa maison de la 25e avenue. Eux comptent, en effet, passer à Papeete le plus de temps possible, visiter les environs, faire des excursions dans les principaux districts, parcourir les régions de la presqu'île de Tatarapu, enfin, épuiser jusqu'à la dernière goutte cette gourde du Pacifique. Ce projet est donc bien arrêté, et lorsqu'il le communique à Callistus Munbar, le surintendant ne peut que donner son entière approbation. « Mais, leur dit-il, vous ferez bien d'attendre 48 heures avant de vous mettre en voyage. »« Pourquoi pas dès aujourd'hui ?» demande Iverness, impatient de prendre le bâton du touriste. « Parce que les autorités de Standard Island vont offrir leurs hommages à la reine, et qu'il convient que vous soyez présentés à sa majesté ainsi qu'à sa cour. »« Et demain ?» dit Frascolin. Demain, le commandant-commissaire de l'archipel viendra rendre aux autorités de Standard Island la visite qu'il a reçue, et il convient que nous soyons là, répond Pinchina. Eh bien, nous y serons, monsieur le surintendant, nous y serons. En quittant le palais du gouvernement, Cyrus Bickerstaff et son cortège se dirigent vers le palais de Sa Majesté. Une simple promenade sous les arbres, qui n'a pas exigé plus d'un quart d'heure de marche. La royale demeure est très agréablement située au milieu des massifs verdoyants. C'est un quadrilatère à deux étages, dont la toiture, à l'imitation des chalets, surplombe deux rangées de vérandas superposées. Des fenêtres supérieures, la vue peut embrasser les larges plantations, qui s'étendent jusqu'à la ville, et au-delà se développe un large secteur de mer. En somme, charmante habitation, pas luxueuse, mais confortable. La reine n'a donc rien perdu de son prestige à passer sous le régime du protectorat français. Si le drapeau de la France se déploie à la mâture des bâtiments amarrés dans le port de Papeete ou mouillés en rade, sur les édifices civils et militaires de la cité, du moins le pavillon de la souveraine balance-t-il au-dessus de son palais les anciennes couleurs de l'archipel. Une étamine à bandes rouges et blanches transversales, frappée à l'angle du yacht tricolore. Ce fut en 1706 que Quiros prit connaissance de l'île de Tahiti, à laquelle il donna le nom de Sagittaria. Après lui, Wallis, en 1767, Bougainville, en 1768, complétèrent l'exploration du groupe. Au début de la découverte, régnait la reine Oberea. Et c'est après le décès de cette souveraine qu'apparut, dans l'histoire de l'Océanie, la célèbre dynastie des Pomarés. Pomaré Ier, 1762-1780, ayant régné sous le nom d'Otto, le Héron Noir, le quitta pour prendre celui de Pomaré. Son fils, Pomaré II, 1780-1819, accueillit favorablement, en 1797, les premiers missionnaires anglais et se convertit à la religion chrétienne 10 ans plus tard. Ce fut une époque de dissension, de lutte à main armée, et la population de l'archipel tomba graduellement de 100 000 à 16 000. Pomaré III, fils du précédent, régna de 1819 à 1827, et sa sœur, Emata, la célèbre Pomaré, la protégée de l'horrible Pritchard, née en 1812, devint reine de Tahiti et des îles voisines. N'ayant pas eu d'enfant de Tapoa, son premier mari, elle le répudia pour épouser Arifaate. De cette union naquit en 1840 Arion, héritier présomptif, mort à l'âge de 35 ans. À partir de l'année suivante, la reine donna 4 enfants à son mari, qui était le plus bel homme du groupe, une fille, Terimaevarna, princesse de l'île Bora Bora depuis 1860, le prince Tamatoa, né en 1842, roi de l'île Raiatea, que renversèrent ses sujets révoltés contre sa brutalité, le prince Teritapunui, né en 1846, affligé d'une disgracieuse claudication, et enfin le prince Tahuvira, né en 1848, qui vint faire son éducation en France. Le règne de la reine Pomaré ne fut pas absolument tranquille. En 1835, les missionnaires catholiques entrèrent en lutte avec les missionnaires protestants. Renvoyés d'abord, ils furent ramenés par une expédition française en 1838. 4 ans après, le protectorat de la France était accepté par 5 chefs de l'île. Pomaré protesta, les Anglais protestèrent. L'amiral Dupetit-Thouars proclama la déchéance de la reine en 1843 et expulsa le Pritchard, événements qui provoquèrent les engagements meurtriers de Mahaena et de Rapepa. Mais l'amiral ayant été à peu près désavoué, comme on le sait, Pritchard reçut une indemnité de 25 000 francs et l'amiral Brua une mission de mener ses affaires à bonne fin. Tahiti se soumit en 1846 et Pomaré accepta le traité de protectorat du 19 juin 1847 en conservant la souveraineté sur les îles Raiatea, Huanin et Bora Bora. Il y eut bien encore quelques troubles. En 1852, une émeute renversa la reine et la République fut même proclamée. Enfin, le gouvernement français rétablit la souveraine, laquelle abandonna 3 de ses couronnes, en faveur de son fils aîné, celle de Raiatea, et celle de Taha, en faveur de son second fils, celle de Huanin, en faveur de sa fille, celle de Bora Bora. Actuellement, c'est une de ses descendantes, Pomaré VI, qui occupe le trône de l'archipel. Le complaisant Frascolin ne cesse de justifier la qualification de la rousse du Pacifique dont l'a gratifié Pinchina. Ses détails historiques et biographiques, il les donne à ses camarades, affirmant qu'il vaut toujours mieux connaître les gens chez qui l'on va et à qui l'on parle. Ivernès et Pinchina lui répondent qu'il a eu raison de les édifier sur la généalogie des Pomarés, laissant Sébastien Zorn répliquer que cela lui était parfaitement égal. Quant au vibrant Ivernès, il s'imprègne tout entier du charme de cette poétique nature tahitienne. En ses souvenirs reviennent les récits enchanteurs des voyages de Bougainville et de Dumont-d'Urville. Il ne cache pas son émotion à la pensée qu'il va se trouver en présence de cette souveraine de la nouvelle Citerre, d'une reine Pomaré authentique, dont le nom seul signifie « nuit de la toux », lui répond Frascolin. « Bon, s'écrie Pinchina, comme qui dirait la déesse du rhume, l'impératrice du Coryza. Attrape Ivernès et n'oublie pas ton mouchoir. » Ivernès est furieux de l'impestive répartie de ce mauvais plaisant, mais les autres rient de si bon cœur que le premier violon finit par partager l'hilarité commune. La réception du gouverneur de Standard Island, des autorités et de la délégation des notables s'est faite avec apparat. Les honneurs sont rendus par le Mutoy, chef de la gendarmerie, auquel se sont joints les auxiliaires indigènes. La reine Pomaré VI est âgée d'une 40aine d'années. Elle porte, comme sa famille qui l'entoure, un costume de cérémonie rose pâle, couleur préférée de la population tahitienne. elle reçoit les compliments de Cyrus Bickerstaff avec une affable dignité, si l'on peut s'exprimer de la sorte, et que n'eût point désavoué une majesté européenne. Elle répond gracieusement, en un français très correct, car notre langue est courante dans l'archipel de la société. Elle avait d'ailleurs le plus vif désir de connaître cette Standard Island, dont on parle tant dans les régions du Pacifique, et espère que cette relâche ne sera pas la dernière. James Tankardon est de sa part l'objet d'un accueil particulier, ce qui ne laisse pas de froisser l'amour-propre de Nat Coverley. Cela s'explique cependant parce que la famille royale appartient au protestantisme et que James Tankardon est le plus notoire personnage de la section protestante de Millar City. Le quatuor concertant n'est point oublié dans les présentations. La reine daigne affirmer à ses membres qu'elle serait charmée de les entendre et de les applaudir. Ils s'inclinent respectueusement, affirmant qu'ils sont aux ordres de Sa Majesté, et le surintendant prendra des mesures pour que la souveraine soit satisfaite. Après l'audience qui s'est prolongée pendant une demi-heure, les honneurs décernés au cortège à son entrée au palais royal lui sont de nouveau rendus à sa sortie. On redescend vers Papeete. Une halte est faite au cercle militaire où les officiers ont préparé un lunch, en l'honneur du gouverneur et de l'élite de la population milliardaise. Le champagne coule à plein bord, les toasts se succèdent, et il est 6 heures lorsque les embarcations débordent des quais de Papeete pour rentrer à Tribord Harbor. Et le soir, lorsque les artistes parisiens se retrouvent dans la salle du casino. « Nous avons un concert en perspective, » dit Frascolin. « Que jouerons-nous à cette majesté ? Comprendra-t-elle le Mozart ou le Beethoven ? On lui jouera de l'Offenbach, du Vernet, du Lecoq ou de l'Audran, » répond Sébastien Zorn. « Non pas, la bamboula est tout indiquée, » réplique Pinchina, qui s'abandonne au déhanchement caractéristique de cette danse nègre.